Chapitre 9. J'ai toujours eu ce truc, un truc particulier, et, en un certain sens, j'en étais conscient. Mais je ne savais pas comment m'en servir. J'ignorais si ça portait un nom et ce que ça signifiait. J'avais aussi compris qu'il valait mieux ne pas en parler, car les autres ne le possédaient pas. Je me disais que je me retrouverais dans un cirque s'il s'en apercevait. Ou en prison. Je me souviens encore du jour, vaguement, je n'avais que 3 ou 4 ans, c'est l'un de mes plus anciens souvenirs, où, debout près de la fenêtre, je regardais dans la cour. Il y avait un billot pour fendre le bois et une boîte aux lettres sur son poteau, avec un petit drapeau rouge. Si bien que je devais me trouver à la campagne, chez Tante Mabel, là où nous nous étions réfugiés après que mon père avait pris la poudre d'escampette. Ma avait trouvé un emploi dans une boulangerie à Harkerville, et nous sommes allés y habiter plus tard, quand j'ai eu environ 5 ans. Nous y étions, en tout cas, quand je suis rentré à l'école. Je le sais, à cause du chien de Mrs. Bukowski, car j'étais obligé de passer devant cette saloperie de cannibale canin 5 jours par semaine. Jamais je n'oublierai ce clébard. Un boxeur avec une oreille blanche. Le pays des souvenirs, je t'en fiche. Bref. Je regardais dehors, tandis que des mouches bourdonnaient vers le haut de la fenêtre. Vous savez comment elles font. Ce bruit m'horripilait, mais je n'étais pas assez grand, même avec un journal roulé à la main, pour les tuer ni même les chasser. Si bien que je m'y suis pris autrement. Du bout du doigt, j'ai dessiné 2 triangles dans la poussière de la vitre. Puis une autre forme particulière, un genre de cercle qui reliait les triangles. Et dès que j'ai eu fait ça, dès que le cercle s'est trouvé refermé, les mouches, il y en avait 4 ou 5, sont tombées raides mortes sur l'appui de la fenêtre. Des mouches, grosses comme ces bonbons en forme de haricots, les jelly beans, qui ont goût de réglisse. J'en ai ramassé une et je l'ai regardée. Mais ce n'était pas très intéressant. Je l'ai laissée tomber par terre et je me suis remis à regarder dehors. Des trucs comme ça ont continué à m'arriver de temps en temps. Mais ce n'était jamais intentionnel, je ne les provoquais pas. La première fois où j'ai agi tout à fait sciemment, pour autant que je m'en souvienne, ça a été avec le chien de Mrs. Bukowski. Mrs. Bukowski habitait au coin de Dugway Avenue, où ma mère avait loué un appartement. Son clébard était un mauvais, un animal dangereux, et tous les gosses du quartier avaient peur de cet enfoiré à oreilles blanches. Sa propriétaire le laissait attaché, que dis-je, au piquet, dans la cour, le long de sa maison, et il aboyait dès que quelqu'un passait. Pas de petits aboiements inoffensifs comme font certains chiens, mais plutôt le genre qui veut dire « Si je pouvais sortir d'ici, je te boufferais les couilles, mon gars ». Il s'était détaché une fois et avait mordu le gamin qui distribuait les journaux. On aurait envoyé n'importe quel autre clébard renifler un gaz mortel pour ça, mais le fils de Mrs. Bukowski était le chef de la police, et il lui arrangea le coup. Je haïssais ce chien tout autant que je haïssais Skipper. D'une certaine manière, je suppose, il était la première incarnation de Skipper. J'étais obligé de passer devant la maison de Mrs. Bukowski pour aller à l'école, sinon il m'aurait fallu faire le tour de tout le pâté de maison et courir le risque d'être traité de gonzesse. J'étais terrifié lorsque le molosse courait jusqu'au bout de sa corde et se mettait à aboyer tellement fort que de l'écume jaillissait entre ses dents et ses babines. Il arrivait parfois si brutalement à l'extrémité de sa longueur de corde qu'il en était déséquilibré, bouing, ce que certains auraient pu trouver rigolo, mais qui, pour ma part, ne me parut jamais amusant. Je redoutais trop que la corde, pas une chaîne, mais un simple vieux bout de corde ne casse un de ses jours, et que le chien ne saute par-dessus la barrière, très basse, qui séparait la cour de Mrs. Bukowski de Dugway Avenue, puis qu'il ne se jette à ma gorge. Finalement, un jour, je me suis réveillé avec une idée en tête. Ce que je veux dire, c'est qu'elle était là, nette et précise. Je me suis réveillé dessus comme certains jours, je me réveille avec une bonne grosse trique palpitante. C'était un samedi. Il était tôt et il faisait un temps splendide. Je n'avais aucune raison de passer devant la maison de Mrs. Bukowski, mais ce jour-là, je voulus m'y rendre. Je sautai du lit et m'habillai à toute vitesse. Je faisais tout le plus vite possible, craignant de perdre cette idée. Car j'allais en effet l'oublier, comme on oublie finalement le rêve sur lequel on s'est réveillé, ou sa trique, pour parler crûment, mais sur le moment. Tout le truc était aussi clair qu'une épure dans mon esprit. Des mots, avec des triangles autour et des enjolivures au-dessus, et des cercles spéciaux pour contenir tout le bazar. Deux ou trois partiellement superposés pour donner plus de force. Je traversais le séjour comme une flèche. Ma dormait encore. Je l'entendais ronfler, et son tablier rose de la boulangerie pendait de la tringle à rideau de la douche dans la salle de bain, et déboulait dans la cuisine. Ma avait un petit tableau noir à côté du téléphone qui lui servait de pense-bête. Je ne m'arrêtai là que le temps de barboter le morceau de craie rose qui pendait du tableau au bout d'une ficelle. Je le glissai dans ma poche et filai vers l'entrée. Je me souviens du temps qu'il faisait. Magnifique, frais mais pas froid, le ciel si bleu qu'il avait l'air d'avoir été passé dans les rouleaux de la station de lavage de voitures Happy Wheels. Il n'y avait pas une âme. Les gens étaient encore au lit pour prendre un râpe de sommeil, comme le font tous ceux qui le peuvent le samedi. Le clébard de Mrs. Bukowski, lui, ne dormait pas. Cette brute était un adepte forcené de la discipline, matin et soir, fais ton devoir. Il me vit arriver entre les piquets de la barrière et chargea avec sa violence habituelle, sinon même avec plus de violence que d'ordinaire, jusqu'au bout de sa corde, à croire que, dans sa petite cervelle d'abruti, il savait que c'était samedi et que je n'avais rien à faire ici. Bouing ! La corde se tendit et il se cassa la figure. Mais il se remit debout sur le champ et, tirant comme un malade sur sa corde, commença à aboyer dans son style « Je suis en train de m'étrangler, mais je m'en fous !» Je suppose que Mrs. Bukowski était habituée à ses aboiements, que peut-être même elle les aimait, mais depuis... Je me suis demandé comment les voisins pouvaient les supporter. Ce jour-là, je n'y fis pas attention. J'étais trop excité pour avoir peur. Je pris ma craie et mis un genou au sol. Une seconde, j'ai bien cru que j'avais tout oublié de mon idée, et j'ai connu un moment pénible. Je sentais le désespoir et la tristesse m'envahir, et je me suis dit « Non, Dinky, ne te laisse pas faire, bagarre-toi, bagarre-toi !» Écris n'importe quoi, même si c'est seulement « fumée de chien à la mère Bukowski ». Ce n'est pas ce que j'ai écrit. J'ai dessiné une forme spéciale, je crois qu'on appelle ça un sankofite. Une forme bizarre, mais celle qu'il fallait, puisqu'elle a libéré toutes les autres. Ma tête débordait de trucs. C'était merveilleux, mais en même temps foutrement effrayant tellement il y en avait. Pendant les 5 minutes suivantes, agenouillé sur le trottoir, suant comme un porc, je traçais frénétiquement, comme un démon enragé, des mots que je n'avais jamais entendu prononcer, dessinais des formes que je n'avais jamais vues, des formes que personne n'avait jamais vues. Pas seulement des sankofites, mais des japs, des fauders et des smirks. J'écrivis et dessinais jusqu'à avoir de la poussière rose sur tout le bras, jusqu'à ce que le bout de craie de ma ne soit plus qu'un minuscule fragment entre mon pouce et mon index. Le chien de Mrs. Bukowski ne mourut pas comme étaient mortes les mouches. Il n'avait pas cessé un instant d'aboyer pendant tout ce temps, et il parcourut la longueur de sa laisse encore une ou deux fois, mais je n'y fis pas attention. J'étais pris d'une frénésie totale. Je serais totalement incapable de vous décrire cet état, même avec l'éternité devant moi, mais je suis prêt à parier que c'est ce que ressentent les grands musiciens comme Mozart et Eric Clapton quand ils écrivent leur musique, ou les grands peintres quand naissent leurs plus belles œuvres sur la toile. Si quelqu'un s'était approché, je l'aurais ignoré. Bordel, si le clébard de Mrs. Bukowski avait cassé sa laisse, sauté par-dessus la barrière et m'avait mordu les fesses, je l'aurais aussi ignoré, probablement. Mon vieux, c'était du fatal, ça. Tellement fatal que c'est impossible à décrire. Personne ne vint me déranger. Quelques voitures passèrent et leurs occupants se sont peut-être demandé ce que ce gosse pouvait bien fabriquer à dessiner sur le trottoir, tandis que le chien de Mrs. Bukowski continuait à aboyer. À la fin, je me rendis compte que je devais rendre mon travail plus fort. Pour cela, il fallait le destinait uniquement au clébard. Je ne connaissais pas son nom, si bien que j'écrivis « boxeur » en lettres capitales avec ce qui me restait de craie. Entourais le mot d'un cercle sous lequel je dessinais une flèche indiquant le reste. La tête me tournait, le sang me battait aux tempes. J'étais dans le même état que lorsqu'on vient de passer un examen horriblement difficile ou qu'on reste trop longtemps devant la télé. J'avais l'impression d'être sur le point de dégobiller, mais je me sentais aussi totalement fatal. Je regardais le chien. Il paraissait toujours aussi en forme, aboyant et bondissant sur ses pattes arrière quand il arrivait au bout de sa corde. Mais je n'étais pas inquiet. Je retournais à la maison, l'esprit libre. Je savais que le clébard de Mrs. Bukowski était cuit. De la même manière, je parie, qu'un peintre sait quand il a peint un bon tableau ou qu'un écrivain sait quand il a écrit une bonne histoire. Quand c'est bien, on le sait. J'en suis sûr. C'est bien calé dans votre tête et ça fredonne. 3 jours plus tard, le clébard devenait herbivore et mangeait les pissenlits par la racine. J'appris les détails auprès de la meilleure source possible quand il est question de chiens méchants. Le facteur du quartier, Mr. Schemmerhorn. Mr. Schemmerhorn me dit que le boxeur de Mrs. Bukowski, pour on ne sait quelle raison, s'était mis à courir autour de l'arbre auquel il était attaché et que lorsqu'il était arrivé au bout de la corde, ou au bout du rouleau si vous préférez, il avait été incapable de revenir en arrière. Sa propriétaire était partie faire des courses quelque part et ne put donc rien faire pour lui. À son retour, elle trouva le boxeur par terre, au pied de l'arbre, mort par étouffement. Tout ce que j'avais tracé sur le trottoir y demeura pendant environ une semaine. Puis il y eut une forte pluie qui laissa une simple tache rose. Mais jusqu'à la pluie, tout resta en place, pratiquement intact. Et pendant ces quelques jours, personne ne marcha dessus. Les gens, les enfants allant à l'école, les dames se rendant en ville, le facteur lui-même, contournaient plus ou moins mon œuvre. Il n'avait même pas l'air de s'en rendre compte. Et personne ne faisait jamais de remarques comme « Qu'est-ce que c'est que cette connerie sur le trottoir ?» ou « Comment appelle-t-on un truc comme ça ?» Un fauder débile. À croire qu'il ne voyait même pas qu'il y avait quelque chose là. Sauf qu'une partie d'eux-mêmes le savait bien. Sans quoi, pourquoi aurait-il fait le tour ? Chapitre 10. Je ne racontais pas tout ça à Mr. Sharpton. Je lui dis seulement ce que je savais concernant Skipper. J'avais décidé que je pouvais lui faire confiance. Peut-être cette partie secrète, tout au fond de moi, savait-elle que c'était raisonnable de le faire. Mais je ne crois pas. Je crois que c'est simplement la façon qu'il a eue de poser la main sur mon bras, comme aurait fait un père. D'accord, je n'en ai pas, mais je peux m'imaginer. De plus, il avait dit vrai. S'il avait été flic et avait eu l'intention de m'arrêter, jamais un juge et un jury n'auraient avalé l'histoire d'un skipper Brannigan se fichant en l'air en voiture à cause d'une lettre que je lui aurais écrite. Une lettre pleine de mots et de symboles dépourvus de sens, concoctée par un livreur de pizza qui avait régulièrement obtenu 2/20 de moyenne en géométrie et abandonné ses études. Quand j'eus terminé mon récit, le silence se prolongea longtemps entre nous. C'est finalement Mr. Sharpton qui le rompit. Il n'a eu que ce qu'il méritait. Vous en êtes bien conscient, n'est-ce pas ? Voilà la réflexion, je ne sais pourquoi, qui régla la question. Le barrage se rompit et je fondis en larmes. J'ai dû pleurer pendant un bon quart d'heure. Mr. Sharpton passa un bras autour de mes épaules et me tint contre lui, si bien que je mouillais le revers de son veston. Un automobiliste qui serait passé à ce moment-là nous aurait pris à tous les coups pour un couple de PD. Mais personne ne se présenta. Il n'y avait que lui et moi sous les lampes à vapeur de mercure diffusant leur lumière jaune à côté de l'abri à caddie. « Youpi, youpidi, roule donc, petit caddie !» avait chanté une fois Pug, « car tu sais que Supre Savre sera ton nouveau Havre !» On avait rigolé comme des malades. Finalement, je réussis à arrêter les grandes eaux. Mr. Sharpton me tendit un mouchoir et je m'essuyai les yeux avec. « Comment avez-vous su ? » demandai-je. Ma voix me fit l'effet d'être profonde et bizarre, comme une corne de brume. « À partir du moment où vous avez été détecté, le reste a juste été un travail banal de détective. »«
Oui, mais comment ai-je été détecté ?»«
Nous avons un groupe de collaborateurs, ils sont une douzaine en tout, qui cherchent les types et les filles comme vous. » Ils ont en fait la capacité de voir les types et les filles comme vous, Dink, de même que certains satellites détectent les piles nucléaires et les centrales électriques depuis l'espace. Vous, vous ressortez en jaune, comme la flamme d'une allumette pour reprendre l'image de l'un d'eux. Il secoua la tête et eut un petit sourire rusé. J'aimerais bien voir ça une fois dans ma vie, ou être capable de faire ce que vous faites, et, évidemment, j'aimerais pouvoir, pendant un jour déjà me suffirait, peindre comme Picasso ou écrire comme Faulkner. Je le regardais, bouche bée.
C'est vrai ? Il y a des gens capables de voir...
Oui, ce sont nos rabatteurs. Ils parcourent le pays, mais vont aussi à l'étranger, à la recherche de cette lumière jaune brillante, à la recherche d'allumettes enflammées dans la nuit. La jeune femme en question roulait sur la route 90. Elle se rendait à l'aéroport de Pittsburgh, où elle devait prendre un avion pour aller passer quelques jours de repos chez elle. Quand elle vous a vu, ou senti, ou je ne sais quoi, les rabatteurs ne le savent pas eux-mêmes, pas plus que vous savez ce que vous avez fait à Skipper. Pas vrai ?
Qu'est-ce ?
Il leva la main. Je vous ai dit que vous n'auriez pas toutes les réponses que vous aimeriez avoir. De toute façon, vous allez devoir vous décider sur la base de ce que vous éprouvez, pas de ce que vous savez. Je peux cependant vous dire deux ou trois choses. Pour commencer, Dink, je travaille pour une boîte qui s'appelle Trans Creative Corporation, abrégée en Trans Corporation. Notre boulot consiste à débarrasser le monde des Skipper Brannigan. Les gros, ceux qui sévissent à grande échelle. Le siège social de la Trans est à Chicago et nous avons un centre de formation à Peoria, où vous passerez une semaine si vous accueillez favorablement ma proposition. Je ne répondis rien, mais je savais déjà que j'allais accepter. Quelle que soit cette proposition, j'allais dire oui. Vous êtes un trans créatif, mon ami, autant que vous le sachiez tout de suite.
Un trans créatif ?
Quelqu'un doté de caractéristiques très particulières. Dans notre organisation, certains pensent que ce que vous avez, que ce que vous êtes capable de faire, est un talent, une aptitude, voire même un défaut. Mais ils se trompent. Talent et aptitude sont les conséquences de quelque chose de plus profond. La transcréativité est un phénomène général. Talent et aptitudes ordinaires sont spécifiques. Faudra me donner la version simplifiée. N'oubliez pas que j'ai laissé tomber les études.
Je sais.
Je sais aussi que vous n'avez pas arrêté parce que vous étiez stupide. Vous avez arrêté parce que vous ne vous sentiez pas à votre place. À ce titre, vous êtes comme tous les transcréatifs que j'ai rencontrés. Il eut le petit rire sec de celui qui n'est pas vraiment amusé. 21 en tout. Et maintenant, écoutez-moi sans jouer les idiots. La créativité est comme une main au bout de votre bras. Mais une main possède plusieurs doigts, pas vrai ? Au moins 5, à ma connaissance. Voyez ces doigts comme des aptitudes. Quelqu'un de créatif peut écrire, peindre, sculpter ou imaginer une formule mathématique. Il ou elle peut chanter, danser ou jouer d'un instrument de musique. Ce sont les doigts. Mais la créativité est la main qui leur donne vie. Et de même que toutes les mains sont fondamentalement identiques, la fonction crée la forme, toutes les personnes créatives sont identiques une fois que vous arrivez à l'endroit où les doigts se rejoignent. La transcréativité est aussi comme une main. On appelle parfois ces doigts précognition, capacité à voir l'avenir. Parfois post-cognition, capacité à voir le passé. L'un des nôtres, par exemple, sait qui a assassiné Kennedy, et ce n'était pas Lee Harvey Oswald, mais une femme, en fait. télépathie, pyrokinésie, télépathie et tant d'autres domaines encore. Nous ignorons l'étendue de ses capacités, c'est certain. C'est une nouvelle planète. Et nous avons à peine commencé l'exploration de son premier continent. Mais la transcréativité est différente de la créativité sur un point essentiel. Elle est beaucoup plus rare. Une personne sur 800, pour les psychologues, est porteuse d'un don. Nous estimons qu'il n'y a peut-être qu'un transcréatif sur 8 millions de personnes. J'en eus le souffle coupé. L'idée que sur 8 millions de personnes, on soit le seul à être porteur d'un tel don couperait le souffle à n'importe qui, non ? Cela fait environ 120 personnes pour 1 milliard d'individus ordinaires. Nous estimons qu'il n'existe peut-être que 3000 de ce que nous appelons des transcréatifs sur la Terre. Nous ne les trouvons qu'un par un. Cette recherche prend un temps fou. L'aptitude à les sentir est d'un niveau relativement faible, mais nous ne disposons tout de même que d'une douzaine de rabatteurs et chacun a nécessité un long entraînement. Ce n'est pas une carrière facile, mais elle est aussi fabuleusement gratifiante. Nous trouvons les transcréatifs et nous les mettons au travail. C'est ce que nous voulons faire avec vous, Dink, vous mettre au travail. Nous désirons vous aider à affiner votre don, à l'affûter et à vous en servir pour l'amélioration de toute l'humanité. Vous ne pourrez revoir aucun de vos anciens amis. Nous avons découvert qu'il n'y a pas pire risque pour la sécurité qu'un vieil ami. Vous ne gagnerez pas beaucoup d'argent non plus, du moins au début, mais vous éprouverez beaucoup de satisfaction. Et ce que j'ai à vous offrir n'est que le premier barreau d'une échelle qui peut se révéler monter très haut. N'oubliez pas les bénéfices secondaires, dis-je, élevant la voix sur « secondaire » pour qu'il puisse éventuellement y voir une question. Il sourit et me donna une tape sur l'épaule. « Tout juste, ces fameux bénéfices secondaires. » Je commençais à me sentir excité. Si mes doutes n'étaient pas complètement dissipés, ils fondaient à vue d'œil. « Bon, parlez-moi de tout ça, » dis-je. Mon cœur battait fort. Mais ce n'était pas de peur. Ce n'était plus de peur. « Faites-moi une offre que je ne puisse pas refuser. » Et c'est exactement ce qu'il fit. Chapitre 11. Trois semaines plus tard, je prenais l'avion pour la première fois de ma vie. Et de quelle façon ai-je perdu ce pucelage-là ? J'étais le seul passager d'un Learjet 35. Quatre haut-parleurs diffusaient la musique des Counting Crows. J'avais un Coca-Cola à la main et je regardais le paysage pendant que l'altimètre grimpait tranquillement jusqu'à 42 000 pieds. Soit 2 kilomètres plus haut que la plupart des avions de ligne, me dit le pilote. Et une balade aussi peu secouée que si j'avais été sur un tapis volant. Au bout d'une semaine, à Peoria, j'avais déjà le mal du pays. Un sacré coup de blues. J'en étais sur le cul. Un ou deux soirs, je m'endormis sur une crise de larmes. J'ai honte de l'avouer, mais j'ai rapporté la vérité jusqu'ici, et je ne vais pas commencer à mentir, même par omission. C'était Ma qui me manquait le moins. On aurait pu imaginer que nous étions très proches tous les deux, genre elle et moi contre le monde. Mais ma mère n'a jamais été très douée question donner de l'amour et réconforter. Oh, elle ne m'a jamais fichu de taloche ou brûlé avec un mégot de cigarette, d'accord. Mais qu'est-ce que ça prouve ? La belle affaire en vérité. Je n'ai pas encore eu d'enfant, mais quelque chose me dit qu'être un bon parent n'a rien à voir avec ce que vous n'avez pas fait à vos rases moquettes. Ma mère m'a toujours préféré ses amis, sa virée hebdomadaire au salon de coiffure et ses vendredis soirs au reservation. Sa grande ambition dans la vie est de remporter le gros lot au loto et de revenir à la maison au volant d'une Monte Carlo flambant neuve. Et ne croyez pas que je cherche à vous attendrir. Je vous dis simplement ce qui est. Mr. Sharpton a appelé Ma et lui a expliqué que j'avais été sélectionné pour la formation approfondie en informatique de la Trans Corporation dans le cadre d'un programme réservé aux jeunes gens doués, mais sans diplôme. Son histoire était en fait parfaitement crédible. J'étais nul en maths et je me pétrifiais presque complètement en classe d'anglais parce qu'on était supposé prendre la parole, mais
J'ai toujours été en bon terme avec les ordinateurs du lycée. Je n'aime pas spécialement me vanter, et d'ailleurs, je n'en ai jamais soufflé mot à mes condisciples, mais je rentrais comme je voulais dans les programmes de Mr. Jacubois et de Mr. Wilcoxen, par exemple. Je n'ai jamais été amateur de jeux sur ordinateur. À mon humble avis, c'est bon pour les tarés. Mais j'étais capable de bidouiller à peu près tout ce que je voulais. Pug venait me voir faire de temps en temps. « J'arrive pas à le croire, » m'a-t-il dit une fois. « Bon Dieu, t'arrives à faire fumer et parler cette machine !» J'avais haussé les épaules. « Le premier imbécile venu arrive à peler une pomme, mais enlever le cœur sans toucher à la peau, c'est une autre paire de manches !» Si bien que Ma le crut sans peine, elle se serait peut-être posé quelques questions si elle avait su que la Trans Corporation me faisait venir en Illinois par jet privé. Et elle ne me manqua pas tellement. Mais Pug me manquait, ainsi que John Cassidy, mon autre ami, et celui de Pug, à l'époque du Supre Sabre. John jouait de la basse dans un groupe punk, s'était fait coller un anneau d'or dans le sourcil gauche et possédait à peu près tous les enregistrements de sous-pop qu'on puisse imaginer. Il pleura lorsque Kurt Cobain passa l'arme à gauche, sans essayer de se cacher ou d'accuser son allergie. « Je suis triste parce que Kurt est mort », dit-il simplement. « Fatal, le John. » Harkerville aussi me manquait. Pervers, mais c'est comme ça. Me retrouver au centre de formation de Peoria était comme naître une deuxième fois, et je soupçonne que naître est toujours un processus douloureux. J'avais pensé retrouver là-bas d'autres personnes comme moi. Si on était dans un roman ou dans un film, ou dans un simple épisode de X-Files, j'aurais rencontré une mignonne petite nana avec de mignons petits nénés et le don de fermer la porte à l'autre bout de la pièce. Mais rien de tel n'arriva. Je suis bien certain qu'il y avait d'autres transcréatifs à Peoria pendant que je m'y trouvais moi-même. Mais le docteur Wentworth et son équipe prenaient grand soin de nous tenir séparés. J'ai demandé pourquoi une fois, mais on m'a envoyé bouler. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que tous ces gens qui se baladaient avec le logo Transcorp sur leur chemise n'étaient pas forcément mes copains ou n'avaient pas spécialement envie de remplacer mon papa disparu depuis si longtemps. Il s'agissait de tuer des gens. Voilà à quoi destinait l'entraînement. On ne m'en parlait pas tout le temps, mais les formateurs n'essayaient pas pour autant de me dorer la pilule. Je devais simplement ne pas oublier que les cibles étaient des individus nuisibles, des dictateurs, des espions, des tueurs en série, et, comme me l'avait fait remarquer Mr. Sharpton, dans une guerre, il y a toujours des morts. De plus, ça n'avait rien de personnel. Ni arme à feu, ni poignard, ni garrot. Je n'aurais jamais de sang sur les mains. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai jamais revu Mr. Sharpton, du moins pas encore, mais je lui ai parlé tous les jours pendant la semaine que j'ai passée à Peoria et ses entretiens m'ont beaucoup aidé à lutter contre mon chagrin et mon sentiment d'abandon. C'était chaque fois comme s'il posait une serviette fraîche sur mon front brûlant. Il m'avait donné son numéro de téléphone le soir de notre entrevue dans la Mercedes en me disant que je pouvais l'appeler n'importe quand, même à 3h du matin si ça n'allait pas. Et c'est exactement ce que j'ai fait une fois. J'ai failli raccrocher à la deuxième sonnerie. Ce n'est pas parce qu'on vous dit « vous pouvez appeler n'importe quand, même à 3h du matin » qu'on s'attend à ce que vous le fassiez. Mais je laissais sonner. J'avais un coup de blues, c'est vrai, mais il y avait plus que ça. Les choses ne se passaient pas exactement comme je l'avais prévu, et c'était ce que je voulais dire à Mr. Sharpton. Et peut-être voir aussi comment il allait le prendre. Il décrocha à la troisième sonnerie, et s'il paraissait endormi, vous parlez d'une surprise, il ne semblait nullement fâché. Je lui expliquais que certains trucs qu'on me faisait ici étaient fichtrement bizarres. Le test avec tous les flashs, par exemple. C'était un test pour l'épilepsie, soi-disant, mais je me suis endormi en plein milieu. Et quand je me suis réveillé, j'avais un mal de tête carabiné et je n'arrivais pas à penser. Vous voulez que je vous dise comment je me sentais? Comme un classeur dans lequel on est venu farfouiller. Où voulez-vous en venir, Dink? Je crois qu'ils ont essayé de m'hypnotiser. Il y eut un court silence. C'est possible. C'est même probable, dit Mr. Sharpton. Mais pourquoi? À quoi ça peut leur servir? Je fais tout ce qu'on me demande. Pourquoi vouloir m'hypnotiser? Je ne connais pas le détail de tous les examens et de tous les protocoles, mais je les soupçonne de vous programmer, d'installer toutes sortes de choses pratiques au niveau inférieur de votre esprit sans toucher à la partie consciente, ce qui risquerait peut-être de bousiller votre talent particulier. En fait, rien de différent de la programmation d'un disque dur, et rien de plus sinistre. Vous n'en êtes pas sûr ?
Non. Comme je vous l'ai dit, la formation n'est pas de mon ressort. Mais je vais passer quelques coups de fil et le docteur Wentworth vous parlera. Il est même possible que des excuses vous soient dues. Si c'est le cas, Dink, soyez assuré qu'elles seront présentées. Nos transcréatifs sont trop rares et trop précieux pour qu'on les bouleverse inutilement. Y a-t-il autre chose ?
Je réfléchis un instant et répondis que non. Je le remerciai et raccrochai. J'avais été sur le point de lui dire aussi que je pensais avoir été drogué en plus, qu'on m'avait donné un antidépresseur quelconque pour m'aider à surmonter mon coup de blues. Mais finalement, j'avais préféré ne pas l'embêter avec ça. Il était 3 heures du matin, tout de même, et s'il m'avait donné quelque chose, c'était probablement pour mon bien.
Chapitre 12. Le docteur Wentworth vint me voir le lendemain. C'était lui, le grand sachem. Et il me présenta effectivement des excuses. Il se montra d'une courtoisie parfaite, mais il y avait quelque chose d'indéfinissable dans son attitude qui me fit penser qu'il n'était pas impossible que Mr. Sharpton l'ait appelé 2 minutes après avoir reçu mon coup de fil pour lui passer un bon savon. Le docteur Wentworth m'avait invité à venir faire une petite promenade dans le parc derrière les bâtiments. La pelouse était verdoyante et proche de la perfection en cette fin de printemps. Il me dit qu'il était désolé, qu'il aurait dû m'avertir. Le test d'épilepsie était vraiment un test pour détecter les sujets épileptiques, dit-il, et aussi une tomographie, dite CAT scan. Mais, étant donné que cet examen mettait la plupart des sujets dans un état hypnotique, ils en profitaient en général pour donner certaines instructions de base. Dans mon cas, elle concernait les programmes des ordinateurs que j'allais utiliser à Columbia City. Le docteur Wentworth me demanda si j'avais d'autres questions à poser. Je répondis aucune. Vous vous dites probablement que c'est bizarre de lui avoir menti. Moi, non. Vous comprenez ? Je venais de sortir de tout un cursus scolaire qui s'était terminé 3 mois avant les examens. J'avais apprécié certains de mes professeurs. J'en avais détesté d'autres. Mais il ne s'en était jamais trouvé un seul en qui j'ai eu entièrement confiance. J'étais du genre à toujours aller m'asseoir au fond de la classe, si le prof ne nous installait pas par ordre alphabétique, et je ne prenais jamais part aux discussions. Je me contentais de marmonner un « embarrassé quand on me posait une question, et 4 chevaux sauvages n'auraient pu m'arracher un commentaire. Mr. Sharpton était la seule personne qui avait été capable d'accéder à mon être intime. Et ce bon vieux docteur Wentworth, avec son crâne dégarni et ses yeux inquisiteurs derrière ses petites lunettes sans monture, n'était pas Mr. Sharpton. Il m'était plus facile de me représenter un vol de cochon en migration vers le sud que de m'imaginer me confiant à ce bonhomme. Quant à pleurer sur son épaule, n'en parlons même pas. Et puis merde, je ne savais pas trop quoi lui demander d'autre de toute façon. La plupart du temps, j'aimais bien ce que je faisais à Peoria, et la perspective d'un nouveau boulot, d'une maison nouvelle, d'une nouvelle vie, tout ça m'excitait. Les gens étaient super avec moi. Même la bouffe était super. Pain de viande, poulet frit, milkshake, tout ce que j'aimais. Bon, d'accord, les examens médicaux et psychologiques me plaisaient moins, comme ces crottes de nez qu'il fallait dessiner avec un crayon IBM. Et je me sentais parfois léthargique, comme si on m'avait mis un truc dans ma purée. Ou au contraire, hyper excité, ça m'arrivait aussi. Et il y eut d'autres fois, au moins 2, où je suis à peu près certain d'avoir été de nouveau hypnotisé. Et alors ? Était-ce si grave pour quelqu'un qui avait été poursuivi sur un parking de supermarché par un cinglé qui rigolait et faisait des bruits de Formule 1 ? Un barjot qui essayait de le renverser avec un caddie ? Chapitre 13. J'eus un dernier entretien téléphonique avec Mr. Sharpton. Il me semble que je dois en parler. C'était la veille de mon 2e voyage en avion, celui qui me conduisit à Columbia City
où un type m'attendait avec les clés de ma nouvelle maison. J'avais déjà été mis au courant pour le ménage et les règles de base de l'argent. Je devais commencer chaque semaine sans un rond, la terminer sans un rond. Et je savais qui appeler localement si j'avais un problème. Pour un gros problème, j'appelais Mr. Sharpton, qui restait techniquement mon contrôle. J'avais un plan, une liste des restaurants, l'adresse des cinémas et du centre commercial. Tout avait été prévu, en fait, sauf le plus important. Mais qu'est-ce que je vais faire, Mr. Sharpton? Je l'appelais depuis le téléphone situé à l'extérieur de la cafétéria. J'avais un appareil dans ma chambre, mais je me sentais trop nerveux pour m'asseoir et encore plus pour m'allonger sur mon lit. S'ils mettaient encore leur saloperie dans ma nourriture, ça n'avait pas été vraiment efficace aujourd'hui. « À ce stade, je ne peux plus vous aider, Dink, » répondit-il, toujours aussi imperturbable. « Alors, bon vent, matelot. Qu'est-ce que vous me racontez? Il faut que vous m'aidiez. C'est bien vous qui m'avez recruté, non? Prenons un exemple. Une simple hypothèse. Supposons que je sois le président d'une université richement dotée. Vous savez ce que ça veut dire, richement dotée? Pleine de fric. Je vous ai déjà dit que je n'étais pas stupide. C'est vrai. Je vous présente mes excuses. Bref, disons que moi, président Sharpton, j'emploie une partie des sommes à ma disposition pour engager un grand romancier et en faire notre écrivain résident, ou un grand pianiste, pour qu'il enseigne. Est-ce que cela me donnerait le droit de dire au romancier ce qu'il doit écrire, au pianiste, la façon dont il doit enseigner? Probablement pas. Certainement pas. Mais supposons que je le fasse tout de même. Si je dis au romancier « Écrivez une histoire dans laquelle Betsy Ross drague George Washington dans le Gay Paris. » Croyez-vous qu'il va m'écouter? J'éclatais de rire, sans pouvoir m'en empêcher. Mr. Sharpton avait l'art et la manière, il faut bien le dire. « Pourquoi pas ?» répondis-je. « En particulier si vous la pâtez avec une bonne prime. » « D'accord. Mais même en admettant qu'il se pince le nez et me sorte quelque chose, » son roman aurait toutes les chances d'être très mauvais. Car les créateurs ne sont pas toujours aux manettes, et même dans leurs œuvres les meilleures, il est rare qu'ils soient vraiment aux manettes. Ils se contentent plus ou moins de se laisser porter par la vague, les yeux fermés, et de crier « Ouais !» Admettons. Mais quel rapport avec moi? Écoutez, Mr. Sharpton, quand j'essaie d'imaginer ce que je vais fabriquer à Columbia, je ne vois rien qu'un grand vide blanc. Aider les gens, dites-vous, rendre le monde meilleur, nous débarrasser des skippers. Tout ça paraît sensationnel, sauf que je ne sais pas comment m'y prendre. Mais si, le moment venu, vous le saurez. Vous m'avez dit que Wentworth et son équipe étaient là pour améliorer mon talent, l'affiner, l'aiguiser. Mais en fin de compte, ils m'ont fait passer toutes sortes de tests et d'examens à la noix, au point que j'avais l'impression d'être retourné à l'école. Ont-ils tout mis dans mon subconscient? Tout mis sur le disque dur? Faites-moi confiance, Dink. Faites-moi confiance et surtout, faites-vous confiance. Ce que j'ai fait, mais depuis quelque temps, les choses ont commencé à mal tourner. Et ça ne va plus du tout. Ce bon Dieu de Neff, c'est avec lui que tout a commencé à déraper. Je ne regretterai jamais assez d'avoir vu sa photo. Ou du moins, s'il m'avait fallu voir une photo de lui, j'en aurais préféré une où il ne souriait pas. Chapitre 14. Je n'ai rien fait au cours de ma première semaine à Columbia City. Strictement rien fait, que dalle. Je ne suis même pas allé au cinéma. Le jour du ménage, je me suis contenté de me rendre dans le parc. Là, assis sur un banc, j'avais l'impression que l'univers entier me regardait. Au moment de me débarrasser de ce qui me restait d'argent, je me suis retrouvé en train de balancer plus de $50 à la poubelle. Sans compter que faire ce genre de choses était une nouveauté pour moi, il ne faut pas l'oublier. Ne me dites pas « délirant », vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Pendant que j'entendais le moteur du broyeur mettre les billets en lambeaux sous l'évier, je n'arrêtais pas de penser à Ma. S'il avait été là, et m'avait vu faire, aucun doute qu'elle se serait jetée sur moi avec un couteau de boucher pour m'arrêter. Vous vous rendez compte? C'était l'équivalent d'une douzaine de parties de loto à 20 chiffres qui partaient à l'égout. Jamais je ne dormis aussi mal que pendant cette première semaine. De temps en temps, J'allais jusque dans le petit bureau, sans en avoir envie, mais mes pieds m'y traînaient. Comme ces assassins qui, paraît-il, retournent toujours sur la scène de leur crime. Bref, je me tenais dans l'encadrement de la porte, regardant l'écran sombre de l'ordinateur et le modem du village global, et je transpirais de culpabilité, de gêne, de peur. Même la table, une table impeccable, pas un seul papier dessus, me faisait transpirer. C'est tout juste si je n'entendais pas les murs murmurer des trucs comme « Mais non, il ne se passe rien du tout ici » ou « Qui c'est ce comique? Le type qui vient poser le câble ?» J'eus des cauchemars. Dans l'un d'eux, on sonnait à la porte, j'allais ouvrir. C'était Mr. Sharpton. Il tenait des menottes. « Tendez-moi vos poignets, Dink, » disait-il. « Nous avons cru que vous étiez un transcréatif, mais nous nous sommes manifestement trompés. » Non, non, j'en suis un. Je suis un vrai transcréatif. J'ai simplement besoin de temps pour m'acclimater. C'est la première fois que je pars de chez moi, vous le savez bien. Vous avez eu 5 ans pour vous acclimater. Je reste frappé de stupeur. Je n'arrive pas à y croire. Je sais pourtant tout au fond de moi que c'est vrai. J'ai l'impression que ça ne fait que quelques jours, mais en réalité, voilà 5 putains d'années que je suis là et je n'ai pas branché une seule fois l'ordinateur du petit bureau. Sans le service de nettoyage, il y aurait une couche de poussière de 10 centimètres sur la table. « Tendez-moi vos mains, Dink. Ce n'est pas la peine de rendre les choses encore plus difficiles. Je refuse, et vous ne pouvez pas m'obliger. » Il regarde alors derrière lui, et qui monte les 4 marches du perron ? Skipper Branigan. Il porte sa blouse en nylon rouge. La seule différence est que le logo Transcorp a remplacé Supre Savre. Il est pâle, mais sinon, paraît aller bien. En tout cas, il est vivant. « Tu crois que tu m'as fait quelque chose, mais c'est pas vrai, » dit Skipper. « Tu n'étais pas capable de me faire quoi que ce soit. Tu n'es rien qu'un branleur de hippie. »« Je vais lui passer les menottes, » dit Mr. Sharpton. « S'il fait des difficultés, roule-lui dessus avec le caddie. »« Absolument fatal, » répond Skipper. « Sur quoi ?» Je me réveille, à moitié dans mon lit, à moitié par terre, hurlant.